Bonjour et bienvenue dans l'univers captivant de la plasturgie avec le podcast du Salon FIP, le salon de l'innovation et de la plasturgie, qui aura lieu du 4 au 7 juin prochain à Lyon Eurexpo. Ici Steven Delbeau, prêt à vous faire découvrir les coulisses de l'industrie des plastiques et des composites à travers des rencontres exclusives. Dans chaque épisode, nous invitons un acteur clé de la plasturgie. Décideurs, entrepreneurs et même journalistes, ils viendront partager leurs expériences, leurs défis et leurs perspectives sur ce secteur en pleine transformation. Attendez-vous à des discussions riches, à rebours des idées préconçues et des simplifications excessives. Nous irons au cœur des enjeux tout en gardant un œil sur l'impact environnemental et les innovations durables. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à rencontrer ceux qui font bouger la plasturgie. C'est parti pour une nouvelle interview passionnante de notre podcast. Et aujourd'hui, je reçois Kako Naït Ali, ingénieur et docteur en chimie des matériaux. Bonjour Kako.
Bonjour Steven.
Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours ?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Kako Naït Ali. Je suis donc ingénieur en chimie des matériaux et docteur en chimie des matériaux. Alors j'ai commencé mon parcours par une école d'ingénieur à Lyon et ensuite par un doctorat où j'ai travaillé sur le recyclage des bouteilles en plastique dans l'emballage alimentaire. C'était il y a une quinzaine d'années maintenant. Et ensuite, j'ai travaillé dans un tout autre domaine, c'est-à-dire le génie civil, mais toujours sur les matériaux plastiques, où en fait, j'ai étudié leur dégradation, la manière dont ils étaient produits, la manière dont ils étaient également recyclés. Finalement, l'ensemble du cycle de vie des matériaux polymères plastiques qu'on utilise dans le génie civil. Et là, depuis une dizaine d'années, je travaille dans le domaine de l'énergie sur exactement la même chose, hein, c'est-à-dire vraiment la compréhension des mécanismes de dégradation, le cycle de vie des matières plastiques, des matières polymères, et puis également faire le lien avec l'industrie. C'est aussi un point qui est très important.
Alors, on vous connaît parce que vous avez à cœur de rétablir les vérités et de briser un peu les idées reçues autour du plastique et du recyclage. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Vous êtes scientifique. Comment est-ce que vous voyez votre mission de vulgarisation? Comment est-ce que vous travaillez là-dessus, en fait? Qu'est-ce qui vous motive à faire ce boulot, finalement?
Alors, je suis rentrée dans la vulgarisation un peu par hasard, c'est-à-dire que je suis allée sur Twitter il y a quelques années, c'était en 2018, par curiosité uniquement, et puis je me suis rendu compte, comment dire, qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup d'idées reçues. On commençait tout juste à avoir des articles de presse sur la pollution plastique, des choses qui étaient très, très médiatisées, et je me rendais compte que vraiment le message ne passait pas auprès du grand public. Donc, en tant qu'experte, pour moi, c'est un devoir, en fait, hein. C'est un devoir de contribuer à la compréhension des éléments scientifiques, de la manière dont se comportent les matériaux, etc., en fait, de partager son savoir. Donc, c'est vraiment quelque chose que je fais sur mon temps libre, voilà, parce que je pense que c'est nécessaire et j'ai vraiment à cœur de partager mes connaissances. Ouais. Et je me rends compte d'une chose, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer en face de nous des personnes qui vont être virulentes, qui vont être, comment dire, qui vont prendre certains sujets de manière très émotionnelle, vous voyez. Et en fait, en faisant en sorte de ramener le sujet à des choses techniques, scientifiques, finalement, ça apaise le débat. Et j'ai très très peu de problèmes de personnes qui seraient virulentes envers moi ou ce genre de choses. Au contraire, le grand public est demandeur d'informations et demandeur d'explications. Voilà. Et je pense qu'il y avait un manque, en fait, dans ce domaine-là. Je pense que j'ai comblé en partie ce manque, en tout cas sur ce sujet-là. Et à mon avis, ce serait bien, on était plus nombreux à le faire, côté industrie notamment, parce que vraiment, le grand public est très demandeur de ce genre de choses.
Finalement, ce que demande le grand public, c'est aussi d'aller peut-être un peu plus dans le fond des choses. C'est vrai, quand on voit vos publications, on voit que vous allez dans le fond de l'explication scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière cet article, comment est-ce qu'on peut aller plus loin en fait que simplement reproduire les constatations des études, etc. C'est ça en fait la mission que vous donnez, et puis ce qu'attendent les gens en fait.
Oui, c'est ça. Et puis, je pense que les gens n'ont pas envie qu'on leur donne des informations caricaturales. Ils ont vraiment envie de comprendre. Et dans le cas de la pollution, par exemple, pollution plastique, dans le tri des déchets, etc., ils veulent vraiment avoir le bon geste. Et donc, ils sont demandeurs d'informations. Et quand je débunk, donc débunker, c'est quand je critique la manière dont une information est reprise dans les médias, notamment une information scientifique, je leur explique simplement qu'effectivement, on pourrait juste lire le résumé ou la conclusion d'un article scientifique. Mais c'est pas ça qui va nous donner la compréhension, finalement, de ce qui a été étudié et quel est l'impact, finalement, sur la compréhension du sujet. Et donc, en leur expliquant ça, même si ça va dans les détails scientifiques et techniques, en fait, ça leur donne des clés de compréhension et ils voient le sujet vraiment différemment. Voilà. De la nuance, en fait. Ils ont besoin de nuance. La caricature, c'est vraiment chercher l'émotionnel. Moi, je ne cherche pas l'émotionnel. Je cherche vraiment à ce que les gens comprennent ce qu'ils font et puissent le faire en connaissance de cause. Voilà. Je ne veux pas qu'ils partent uniquement sur un constat émotionnel. C'est-à-dire que mettre des photos de tortues avec des pailles dans le nez, ok, ça existe. Et effectivement, c'est ça la réalité de la pollution plastique. Mais ça ne résume pas le sujet des plastiques. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important de leur expliquer. Parce que dans la plupart des cas, ils pensent que le plastique est un matériau qui est inutile, qui est toxique et qui est mauvais pour l'environnement. Et donc, donner cette nuance-là, leur expliquer à quoi servent les matériaux, que ce soit dans l'emballage ou dans d'autres domaines, ça peut aussi leur permettre de faire les bons choix, notamment dans le tri des déchets ou dans le choix de produits qui vont être emballés d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est leur donner la main, en fait, sur leur propre consommation aussi.
Vous avez parlé rapidement des emballages plastiques, des emballages alimentaires. Je crois que c'était l'objet de votre thèse. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors oui, j'ai étudié le recyclage des bouteilles en plastique, notamment des bouteilles en PET, d'emballage alimentaire. C'est-à-dire que j'ai étudié le nombre de cycles de recyclage qu'on pouvait réaliser sur des bouteilles en PET. Et donc, est-ce qu'ils étaient aptes à être utilisés au contact alimentaire ? C'était à l'époque de l'évolution de la réglementation européenne sur le sujet, donc c'était vraiment d'actualité à ce moment-là. Et donc, ce qu'on peut en retirer de cette étude-là, c'est qu'on peut recycler un certain nombre de fois, entre 3 et 4 fois, dans les conditions dans lesquelles moi j'avais recyclé ces bouteilles. Donc ça peut être un peu plus dans de meilleures conditions, sans mélange avec de la matière vierge. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce plastique-là peut se recycler entre 3 et 4 fois seul, en boucle fermée, je dirais. Et quand on rajoute de la matière vierge, on peut le recycler beaucoup plus de fois. Voilà. Ce sont ça les conclusions. Et on peut le garder au contact alimentaire avec ce nombre de recyclage-là. Donc, cette thèse-là, elle a permis de dire oui, on peut utiliser de la matière recyclée, matière plastique recyclée, au contact alimentaire, sans forcément ajouter de matière vierge. Voilà. C'est la principale conclusion de la thèse que j'ai soutenue il y a quelques années.
Ok. Aujourd'hui, un industriel qui produit du plastique ou qui l'utilise, il est forcément confronté à un moment donné à la problématique du recyclage. Quels sont les principaux défis qui s'imposent à lui, en fait, et puis comment est-ce qu'on peut les surmonter ?
En fait, la difficulté, c'est que on ne peut recycler que ce qui entre dans une filière de recyclage. C'est-à-dire que techniquement, je dirais tous les plastiques se recyclent. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas créer une filière de recyclage par type de plastique ou bien par formulation de plastique. Donc, tout le challenge, là, c'est de faire en sorte d'harmoniser, finalement, les types de plastiques qui sont utilisés dans l'industrie et même dans la grande consommation pour réduire le nombre de filières et faire en sorte qu'elles soient plus intéressantes, plus viables, on va dire, économiquement et techniquement. Et c'est là où on a une difficulté, parce qu'en fait, harmoniser signifie que finalement, on ne se démarque pas d'un autre fabricant. Donc c'est là où je pense qu'il y a une certaine difficulté aussi, c'est qu'il y a des solutions, hein. On pourrait harmoniser les types de plastique, etc. Ça réduit un petit peu les fonctions de chaque type de plastique et donc leur utilisation, mais ça permet de bien cadrer à la fois leur usage et leur recyclage. Donc, je pense que ce sont des sujets qui sont pas évidents à traiter
Et je pense que l'industrie plastique, des plastiques, doit se poser la question. Et je pense que la réponse n'est pas forcément si évidente. Voilà, donc le défi principal, c'est de concevoir un produit en plastique qui puisse entrer dans une filière existante. Voilà. Qu'on n'ait pas à créer une filière de recyclage pour un nouveau type de plastique qui rentrerait sur le marché. C'est ça, je pense, le défi actuellement, quoi. Et je pense qu'on en est loin.
Ouais. En dehors de la question du recyclage, si on veut améliorer la gestion des déchets plastiques, il faut quoi? Il faut qu'on... par exemple, on parle beaucoup de consignes, mais on entend aussi que parfois, c'est pas toujours adapté. Il y a des résistances. Pareil sur la sobriété. On parle beaucoup aussi des usages. C'est-à-dire que le plastique, oui, mais... il faut que ce soit rapporté aux usages. Du coup, quels usages? Voilà, c'est un peu toutes les questions qu'on peut avoir autour de l'utilisation des plastiques et de la gestion des plastiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Le problème, c'est qu'on se focalise beaucoup trop sur le matériau. Il faut qu'on se... En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est pour un usage particulier, se demander quelles sont les différentes solutions qui sont disponibles, plastiques ou non, jetables ou réutilisables, et ensuite déterminer la solution qui est la plus intéressante d'un point de vue environnemental, économique et d'usage aussi pour le consommateur. Parce que, en fait, tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que même si on propose des solutions qui sont intéressantes d'un point de vue environnemental, par exemple la consigne, alors il y a toute une logistique à mettre en place autour, c'est-à-dire que quand on met en place une consigne, pour qu'elle soit intéressante d'un point de vue environnemental, il faut qu'elle soit mise en place d'un point de vue local et non national. Donc il faut vraiment qu'on ait quelque chose de local qui soit mis en place. Et ça, c'est très compliqué, aujourd'hui en tout cas. Mais ça veut dire aussi que le consommateur, ou l'industriel dans certains cas, doit changer sa manière de consommer. Et là, on a un problème. Parce que même si le consommateur aujourd'hui nous dit... oui, on a envie de réduire notre impact environnemental. Dès qu'on touche à son mode de consommation, son mode de vie, etc., ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'il est peut-être moins... comment dire, il va moins y aller, quoi. Voilà, il va falloir lui imposer. Donc, c'est là où on a une difficulté entre la volonté de réduire ses impacts environnementaux et la réalité, finalement de la vie de tous les jours du consommateur qui a pas envie d'avoir des contraintes supplémentaires. Ce qu'il appelle, lui, contraintes, en tout cas... Il veut les réduire un maximum. Donc, la balance entre les deux n'est pas évidente. Il y a des produits sur lesquels, je pense, il sera plus facile de mettre en place une consigne locale, comme par exemple les bouteilles d'eau ou de soda ou de bière, etc., ou d'alcool. Là, pour le coup, la consigne sera peut-être plus simple à mettre en place et sera mieux comprise par le consommateur. Par contre, pour les autres types de produits, ça risque d'être très compliqué à mettre en place. Voilà. Donc, on aura toujours besoin d'emballages jetables, c'est ce que je veux dire. Après, le choix entre un emballage jetable qui va être en plastique, en carton ou en aluminium, etc., moi, je dirais que là-dessus, plus on fera de la pédagogie sur les matériaux plastiques en expliquant que parfois, en fait, il vaut mieux utiliser un plastique seul plutôt qu'un emballage multicouche, par exemple, puisque c'est moins, ça se recycle moins bien, plus on fera cette pédagogie-là, plus le consommateur comprendra qu'il vaut mieux acheter, par exemple, un emballage en plastique unique qu'un multicouche carton aluminium plastique qui, lui, sera beaucoup plus compliqué à recycler, en fait. Et donc, leur donner ces clés de compréhension-là, et là, je ne parle pas de moi, mais je parle vraiment de tout le monde, ça peut permettre aussi, ça peut leur permettre de faire ce choix-là et d'y aller. Et en termes de tri et de recyclage, je pense que ce sera aussi beaucoup plus simple. Parce qu'aujourd'hui, tous les multicouches, ça reste quand même compliqué à recycler. Hein. On ne recycle pas du 100%, alors qu'un monomatériau, ça se recycle beaucoup mieux.
Ouais. On parle beaucoup aussi ces dernières années des bioplastiques et des plastiques recyclables. Bonne idée, fausse bonne idée?
Alors les bioplastiques, c'est là où on a une difficulté en termes de transmission de l'information. Parce que la plupart des gens pensent qu'un bioplastique, c'est un plastique qui est biodégradable, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ça n'a rien à voir avec l'origine du matériau. Un bioplastique peut ne pas être biodégradable. Un plastique peut être biodégradable. Donc voilà. Je pense que voilà, il y a une difficulté pour le consommateur de s'y retrouver de ce point de vue-là. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, c'est toujours bien de varier, je dirais, les sources de matériaux. Parce que bon, si le jour où on aura plus de pétrole, peut-être que ce sera intéressant d'aller voir sur d'autres sources de matériaux. Après, ça reste quand même une ressource, alors comme le pétrole, hein, mais celle-ci encore plus avec, je pense, d'autres usages qui seront peut-être, qui sont pour moi prioritaires par rapport à l'utilisation qu'on en a aujourd'hui de fabrication des plastiques. Voilà. Alors quand les matériaux biosourcés viennent de déchets, à la limite, là, ça a un intérêt, parce que ça permet d'utiliser un déchet pour fabriquer une nouvelle matière. Donc, j'ai un avis assez mitigé. Pour moi, tout dépend de la manière dont on va utiliser ces matériaux et la manière dont on va communiquer sur ces matériaux-là. Il ne faut pas non plus que le consommateur s'y perde. Sur les plastiques biodégradables, là aussi, je pense que la réglementation peut aider à mieux s'y retrouver, parce qu'il y a quand même beaucoup de mauvaise compréhension sur ces sujets-là, biodégradables de manière générale, compostables. Enfin, il y a une terminologie qui fait qu'une personne qui s'y connaît techniquement va comprendre ce dont il s'agit, mais le grand public va être complètement perdu. Et même certains industriels sont perdus, en fait. Là, je parle du grand public de manière générale, mais les industriels, certains industriels qui utilisent ces produits peuvent être complètement perdus, en fait. Et pas du tout savoir ce qui relève de la biodégradation. On met un matériau dans un composteur et il va se dégrader au bout de quelques semaines. Et de la biodégradation, le matériau peut éventuellement se dégrader en présence de micro-organismes. Donc c'est là où on a vraiment une grande difficulté, je pense, en termes de communication, parce que les matériaux biodégradables peuvent être éventuellement une solution. Maintenant, on perd certaines propriétés, notamment de durabilité, quand on utilise une matière biodégradable. Et une matière biodégradable qui n'est pas compostable en composteur domestique n'a pour moi pas d'intérêt. Parce que la collecte n'est juste pas possible. Aujourd'hui, on ne peut pas collecter ces matériaux qui sont compostables en milieu industriel. Il n'y a pas vraiment de collecte. Donc finalement, ça n'a pas d'intérêt. Après, clairement, je pense que varier les types de produits, la manière dont ils peuvent être recyclés, alors recyclage mécanique traditionnel avec le tri puis le recyclage en usine, ok, plus matériaux compostables, avoir les deux, ça peut être intéressant en fonction des usages. Par exemple, pour les capsules de café, avoir une capsule qui est compostable en milieu, dans un composteur domestique, ça peut être intéressant pour le consommateur. Donc voilà, il y a des choses qui sont, je pense, intéressantes, mais encore une fois, il faut les utiliser en se disant que c'est une solution parmi d'autres. Voilà. Une solution ne remplace pas finalement le conventionnel dans certains cas. Donc pour moi, il faut garder cette pluralité en termes de solutions qui permet de répondre à tous les besoins qu'on a aujourd'hui en termes d'emballage.
Alors du 4 au 7 juin prochain, il y a le salon FIP qui est organisé, et à cette occasion, il y a une table ronde sur les idées reçues liées au plastique. Donc elle s'intitule « Plastique, stop aux idées reçues ». Vous avez des questions, nos experts y répondent. Je crois que vous ne faites pas partie des experts qui répondront aux questions à cette occasion. Mais ce sera c'est un panel d'experts un peu inédit qui est réuni pour répondre aux questions des participants. Peut-être déjà, est-ce que vous pouvez nous partager quelques idées reçues courantes sur le plastique que vous avez rencontrées au cours de votre carrière et puis que vous cherchez régulièrement à déconstruire ?
Alors, les idées reçues principales que j'entends ici et là sur le sujet. Alors, il y a bien sûr la fameuse carte de crédit de microplastique qu'on ingérerait chaque semaine. Alors ça, je pense que c'est la fake news la plus difficile à combattre et qui est vraiment une idée reçue, quoi, en fait. Hein. C'est absolument pas prouvé scientifiquement, et ça a été débunké par énormément de personnes, même d'un point de vue scientifique. Ce serait la principale. Ensuite, il y a l'idée reçue selon laquelle quand on utilise du plastique, finalement, on s'intoxique. Ça, c'est pareil, je ne sais pas d'où ça vient. Certaines personnes pensent qu'en buvant de l'eau en bouteille, on va s'intoxiquer, quoi. Ça, c'est une fake news aussi qui est qui reste, voilà. Et puis, il y a également, toujours sur les bouteilles d'eau, le fait qu'on ingérerait énormément de microplastiques en buvant une bouteille, dans une bouteille. Voilà. Alors ça, c'est lié à certaines interventions de personnes très, très médiatisées, on va dire ça comme ça, qui luttent contre le plastique et non contre sa pollution, ce qui est un peu dommage. Et donc, c'est pareil, c'est très, très difficile à débunker parce que finalement, ce sont des personnes qui utilisent leur statut scientifique pour faire passer des fake news. Donc, c'est principalement ça, en fait. C'est plutôt... Les principales idées reçues sont liées à la santé humaine, parce que finalement, c'est ce qui touche les gens. C'est ce qui reste le plus. Pour tout le reste, finalement, c'est assez facile à débunker. Les gens comprennent et clairement, ils sont à l'écoute. Par contre, dès que ça touche à leur santé ou à la santé de leurs proches, là, c'est vraiment très, très, très compliqué à expliquer et à débunker.
Et donc, c'est souvent lié aussi au microplastique, d'après ce qu'on, oui. Ce que j'entends de ce que vous dites.
Tout à fait. C'est lié au microplastique parce que finalement, c'est un domaine où on commence tout juste à comprendre les choses au niveau scientifique. On est vraiment au tout début de la recherche. Et donc, forcément, on a peu d'informations. Et quand on explique, bah, non, en fait, on n'a pas l'information sur tel ou tel sujet. Est-ce que c'est bioaccumulable, pas bioaccumulable, etc. En fait, le grand public va plutôt aller voir les personnes qui semblent avoir des réponses, bizarrement. Et du coup, quand on leur dit, bah, non, il n'y a pas d'informations d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de... comment dire, de conclusions claires sur ce sujet-là, encore à l'étude, bah, ils ont du mal à le comprendre. Voilà. C'est là où on a une difficulté, finalement, dans la pédagogie. On y arrive quand même, mais c'est un peu plus compliqué.
Et la dernière question, du coup, donc, il y a le Salon FIP qui se rapproche dans 2 mois. Bah, pour vous, qu'est-ce que ce salon apporte concrètement à la filière de la plasturgie?
Alors, je pense que ce salon peut permettre... aux industriels, déjà de se retrouver pour discuter des différentes difficultés, parce qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions réglementaires qui les concernent. Il y a aussi une évolution de la vision, finalement, des consommateurs sur le matériau. Et puis peut-être de réfléchir à un certain nombre d'actions qu'ils pourraient mener sans attendre que ce soit mis en place d'un point de vue réglementaire. Bon, je pense qu'ils le font, hein. Je ne doute pas qu'ils le font... régulièrement, mais voilà, ce salon-là, ça peut aussi leur permettre de travailler là-dessus. C'est aussi l'occasion de montrer que la filière, elle est dans l'innovation, elle essaie de trouver des solutions et qu'elle propose d'avancer, voilà, pas de rester sur la vision qu'ont certains du matériau, mais non, mais d'avancer et de faire évoluer justement à la fois le matériau, la filière et la manière dont elle peut être aussi perçue. Parce que malheureusement, la perception de la filière peut aussi avoir des impacts sur les vocations des ingénieurs, des techniciens, etc. Et ça peut aussi avoir un impact sur la filière en elle-même. Donc je pense que voilà, ça peut permettre à la filière de discuter de tous ces enjeux-là qui l'attendent pour demain.
Et bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci, Kako, pour cet échange.
Merci à vous.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du FIP Podcast.